Chapitre 6. La villa Clélia se trouvait située au milieu d'admirables jardins. De ses terrasses du premier étage, la vue s'étendait sur le golfe de Naples et l'on pouvait contempler le Vésuve qui témoignait à cette époque d'une recrudescence d'activité. Dans cette demeure enchantée, Dougal et Gwen passèrent un mois d'enivrant bonheur. Ils s'aimaient d'autant plus qu'ils s'étaient crus perdus l'un pour l'autre. Pendant ce temps, ils ne prononcèrent pas une seule fois le nom d'Ivor de Pennansquet. Gwen essayait d'oublier l'être odieux. Dougal en écartait aussi momentanément sa pensée. Il serait temps d'y songer quand, dans peu de temps, il regagnerait Pavala. Alors, se poursuivrait son œuvre de justice. Mais, un soir, son courrier lui apporta une lettre de Bobassa, le dignitaire malais qui exerçait les fonctions de premier ministre et lui était entièrement dévoué. Elle contenait deux nouvelles, dont l'une le fit sursauter et pâlir, quel que fût son empire sur lui-même. Mobassa l'informait qu'Apadji avait été trouvé mort dans sa prison. Il avait dû absorber un poison qu'il portait sur lui. Puis, trois jours plus tard, on avait trouvé vide le cachot du comte de Pennansquet. Un de ses geôliers avait disparu avec lui. On avait reconnu au dehors des traces de leurs pas et de ceux d'un troisième individu. Ils avaient dû quitter Pavala par les airs, car un avion manquait et les deux gardiens du parc d'aviation avaient été trouvés égorgés. C'était là une terrible nouvelle, car Ivor de Pennansquet, libre, ne pouvait avoir qu'un désir, se venger de son neveu, à quelque prix que ce fût. Dougal en dit mot à sa femme, afin de lui épargner, du moins, l'inquiétude de tous les instants qui serait maintenant la sienne, à lui, connaissant toute l'étendue du péril. Mais il résolut de gagner aussitôt Pavala, où il jugeait pouvoir mieux se défendre contre le misérable assassin de son père et de Varvara d'Ourzen. Il donna comme prétexte à Gwen des affaires qu'il appelait dans sa principauté asiatique. Bien que regrettant de quitter les enchantements de cette demeure, la jeune femme ne fit pas d'objection. Elle n'avait d'ailleurs gardé comme bon souvenir du merveilleux palais et des jardins féeriques du Raja Ankai. Et puis, pour qu'elle fût heureuse, il lui suffisait de vivre près de Dougal, dans n'importe quel lieu de la terre. À Pavala, le Raja reprit l'enquête déjà faite par Mobassa et recueillit quelques nouveaux indices, entre autres celui-ci. Un Dayak, qui venait vendre des peaux de bêtes sauvages tuées par lui, déclara avoir rencontré aux environs de la résidence princière, précisément dans la nuit où s'enfuit M. de Pennansquet, un jeune homme qui, d'après le signalement donné par lui, devait être Willy. Ceci confirma un soupçon déjà conçu auparavant par Dougal, qu'Ivor de Pennansquet avait été délivré avec la complicité de son fils. Et tous deux, maintenant, allaient s'unir pour la vengeance. Cette inquiétude ne put qu'assombrir encore l'existence de Dougal. Quoi qu'il fît pour cacher ses préoccupations à sa femme, celle-ci était trop aimante et trop finement observatrice pour ne pas s'en apercevoir. Mais elle les attribuait au regret qu'il avait de n'avoir pu poursuivre le grand rêve d'ambition pour lequel on l'avait élevé. Il y avait eu, de ci, de là, en Inde et en Chine, quelques soulèvements. Le mot d'ordre et la direction suprême manquant, ils étaient restés isolés et sans lendemain. L'immense mouvement audacieusement organisé par Ivor et Apadji avait sombré tout près du port par la volonté de Dougal. Madame de Pennansquet, qui l'avait instruite de la fuite de son mari, lui répondit en déplorant cet épouvantable malheur, car, ajoutait-elle, vous avez là tous deux l'ennemi le plus acharné, le plus implacable qui se puisse concevoir, et dont vous aurez tout à craindre tant qu'il lui restera les moyens de vous nuire. Dougal n'en était lui aussi que trop certain et faisait exercer une surveillance sévère autour du palais et dans la petite capitale. Tout individu suspect était saisi, incarcéré, soumis à un interrogatoire auquel ne manquaient pas les moyens d'intimidation. En outre, à l'étranger, Dougal entretenait des agents chargés de retrouver les traces d'Ivor et de Willy. Mais au bout d'une dizaine de mois après leur disparition, ceux-ci demeuraient toujours introuvables. Dougal parfois se demandait « Sont-ils encore vivants? N'ont-ils pas péri dans quelque accident? Et s'ils n'avaient sur eux rien qui indiquât leur identité, n'ont-ils pas été mis au nombre des morts anonymes ?» Mais il n'osait entretenir ce bienheureux espoir, car il connaissait assez la ruse, la souple ténacité d'Yvan, pour penser que la bête fauve se tairait dans quelque antre secret, jusqu'à l'instant favorable où elle chercherait à saisir sa proie. Gwen avait mis au monde un fils qui avait été appelé Armael du nom de son grand-père maternel. Tandis qu'elle jouissait pleinement de ce nouveau bonheur, Dougal, lui, songeait « Si ce misérable vit encore, il aura maintenant deux victimes de choix pour se venger. » Au bout de 3 mois, la santé de l'enfant commença de donner quelques inquiétudes. Le climat tropical, bien qu'atténué à Pavala, qui se trouvait à une certaine altitude dans l'intérieur, l'éprouvait visiblement. Le médecin conseilla un prompt départ et, après délibération, Dougal décida de s'installer en Suisse, sur les bords du lac de Genève. 10 jours plus tard, il se trouvait avec sa femme et son fils dans un hôtel d'Ouchy. De là, il chercha aux alentours une résidence et bientôt entra en possession d'une vaste et superbe propriété appelée le château Ipanov, du nom de son précédent propriétaire, un russe ruiné par le bolchevisme. Ils s'y installèrent confortablement, mais sans le faste princier dont s'entourait à l'ordinaire Dougal. Celui-ci voulait éviter d'attirer trop vivement l'attention, tout en craignant qu'une telle précaution fût bien inutile avec un homme comme Ivor, qui avait dû s'arranger pour avoir un ou plusieurs espions dans Pavala et, par conséquent, devait être instruit de son départ. En outre, le jeune comte de Penansquet, car il avait pris le titre qui lui revenait comme étant le fils aîné de Rieck, frère aîné d'Ivor, avait organisé un système de surveillance très discret autour de sa femme et de son fils en y employant des serviteurs dont il était absolument sûr. Mais, en dépit de ses précautions, l'inquiétude ne l'abandonnait pas et enveloppait d'amertume le bonheur dont il jouissait près de Gwen. En outre, privé d'activité, car il voulait s'éloigner le moins possible de sa femme et de son fils, quelles que fussent les précautions prises pour les préserver, il sentait l'ennui s'apesantir sur lui. Gwen s'en apercevait et lui disait « Pourquoi ne pas adopter un autre genre d'existence? Tu étais habitué à voyager, à mener une vie mondaine pendant tes séjours en Europe, à pratiquer tous les sports dans les différentes parties du monde où te conduisait ton caprice. Allons où tu voudras, mon cher Dougal, n'importe où, je te suivrai avec joie, tu le sais bien. » Ne voulant pas lui avouer le véritable motif qui lui faisait choisir cette existence contraire à ses habitudes et à ses goûts, il répondait « Mais je suis fort bien ainsi, ma bien-aimée, entre toi et notre petit Armael. Je ne désire rien de plus. » Gwen, soucieuse, hochait la tête en répliquant « Je suis sûre que tu regrettes l'existence pour laquelle tu avais été préparée, cette domination, cet empire sur le monde asiatique qui devait faire de toi une demi-divinité. » Il répliquait avec force. « Tu te trompes, Gwen. Je t'affirme que tu te trompes. Dire que tout d'abord je n'ai pas eu de regrets serait mentir. Mais maintenant, je n'y songe plus. » Et il pensait « Ah, si je voyais cet homme, ce monstre mort devant moi, ce poids qui m'oppresse tomberait aussitôt, et je saurais me faire l'existence qu'il faut à une nature telle que la mienne, sans véritable regret pour le rêve qu'Ivor et Apadji ont fait luire à mes yeux. » Il se tenait en correspondance suivie avec sa tante, à laquelle il confiait toutes ses craintes. Un soir, il reçut d'elle une lettre où elle l'informait qu'elle allait, en compagnie de ses fidèles serviteurs Ajamil et Sanda, s'embarquer pour l'Europe et qu'elle comptait passer quelques mois près de ses neveux. Gwen, quand son mari lui fit part de cette nouvelle, témoigna d'un vif contentement. Elle avait gardé le meilleur souvenir de la belle Nourmal, un peu étrange, un peu énigmatique, mais qui avait préservé secrètement la jeune femme, menacée par Ivor de Penansquet. Elle fera la connaissance de notre petit Armael, dit-elle, si elle viendra par mer ou par l'air. Elle ne semble pas encore très fixée, mais elle doit câbler la date de son départ et sans doute nous indiquera-t-elle en même temps si elle choisit le yacht ou l'avion. Dougal et Gwen s'entretenaient ainsi sur une terrasse qui donnait sur le lac. Cette soirée de septembre était chaude, presque sans brise. Deux lampes électriques étaient allumées, éclairant les deux époux assis l'un près de l'autre sur un petit canapé de rotin garni de coussins. Au-delà, où n'atteignait pas le reflet des lumières, c'étaient les ténèbres profondes d'une nuit orageuse, sans lune. « Tu n'as pas sommeil, Gwen? Tu ne veux pas rentrer encore ?» demanda Dougal en appuyant son visage contre celui de la jeune femme, inclinée sur son épaule. « Non, mon ami, je suis très bien ici. Je... » Deux corps souples bondirent sur la terrasse. Avant que les deux jeunes gens eussent pu faire un mouvement, une lame était enfoncée dans le dos de Dougal. Avec un sourd gémissement, le jeune comte s'affaissa. Gwen, brusquement saisie par des bras vigoureux, était immobilisée, bâillonnée, avec une dextérité sans pareille. Après quoi, l'homme qui l'avait attaqué l'emportait et, suivi de son compagnon, gagnait le petit débarcadère où s'amarraient les légers bateaux dont se servait Dougal pour promener sa femme et son fils sur le lac. La jeune femme fut étendue dans une barque où s'installèrent les deux agresseurs dont l'un prit les rames. Et, sans bruit, le canot quitta la rive, tandis que, sur la terrasse, les serviteurs qui avaient entendu le gémissement de Dougal accouraient et trouvaient leur maître à terre dans une flaque de sang.